Allô, allô, ici Ciné Herri.
Charlot Soldat est un film muet. Un moyen métrage de 44 minutes. Sorti aux États-Unis en octobre 1918, autrement dit avant même l'armistice. Et le 20 avril 1919 en France. Charles Chaplin a écrit le scénario, composé la musique et réalisé le film dont il a lui-même assuré le montage. Par la suite, il procédera toujours ainsi. Outre Charles Chaplin, les principaux rôles sont tenus par Sidney Chaplin, son demi-frère, et par Edna Purviance, qui tournera avec Charles Chaplin plus de 30 films. Avant d'aborder le synopsis de cette œuvre et d'en analyser le contenu, revenons tout d'abord brièvement sur la figure de Charlot, le personnage principal, déjà mondialement connu depuis 1914. Lorsque Charlot Soldat sort sur les écrans, on recense plus de 60 courts-métrages avec ce personnage, devenu d'ores et déjà une icône. Créé par Chaplin, qui s'inspira alors du comique français Max Linder, Charlot apparaît pour la première fois le 7 février 1914 dans Kid Auto Races at Venice. Charlot est content de lui. Chaplin jouera et mettra en scène ce personnage récurrent jusqu'à ce qu'il l'abandonne dans ses longs métrages à partir des années 40-50. Charlot, c'est ce sans domicile fixe aux manières si raffinées qu'elle pourrait être celle d'un gentleman. Une silhouette, souvent gracieuse dans sa gestuelle, qui ne quitte jamais sa canne de bambou. Celle-ci est d'ailleurs bien plus qu'un simple accessoire. Elle fait partie intégrante de lui-même. Coiffé d'un chapeau melon, Charlot porte une veste étriquée et un pantalon qui tombe sur des chaussures trop grandes. Son allure s'apparente à celle d'un vagabond et sa démarche à celle d'un clown, tantôt triste, tantôt drôlatique. Il fait tour à tour figure de misérable et de diablotin très malin. Distrait, opportuniste, naïf, bagarreur, il est souvent malchanceux en amour. Parfois révolté au grand cœur, parfois asocial et obstiné, souvent sentimental, il combat en permanence les injustices et affronte les institutions. Dans Charlot Soldat, nous retrouvons tout d'abord notre personnage dans un camp militaire. Il y subit un dur entraînement avec de nouvelles recrues avant de partir pour la guerre en France. Les séances sont épuisantes et conduisent Charlot à multiplier les bévues ou erreurs de tous ordres, ce qui donne lieu à autant de scènes désopilantes. Arrivé dans les tranchées, il vit au jour le jour dans l'insécurité et l'insalubrité, tandis que les obus pleuvent et que les batailles font rage. Il dort par exemple dans un abri inondé et envahi par les rats, tout en subissant les attaques incessantes de l'ennemi. Ainsi présentées, les tribulations du personnage ne prêtent guère à sourire, mais pourtant les séquences sont hilarantes. Chaplin suscite systématiquement notre rire pour dénoncer des situations absurdes, atroces et extrêmes que les soldats doivent endurer au front. Ce film ridiculise constamment l'institution militaire et désacralise la défense de la patrie. Il réduit à néant toute légitimité qui pourrait s'attacher à la guerre, guerre qu'il présente comme un jeu grotesque, dépourvu de sens. Toutes les scènes, qu'il s'agisse de la vie dans les tranchées, des combats avec l'ennemi, de la capture de prisonniers ou encore d'une bataille victorieuse, tout est systématiquement tourné en dérision par Chaplin. On voit ainsi Charlot capturer par exemple 13 soldats allemands à lui tout seul. Le comique de situation se trouve renforcé par une fameuse réplique. Lorsque son chef s'en étonne, il répond en effet, avec désinvolture, « I surrounded them, je les ai cernés ». Autrement dit, ce fait d'armes n'est aucunement présenté comme un acte de bravoure, un titre de gloire digne d'un héros, mais bien plutôt comme un jeu loufoque totalement grotesque. Autre morceau d'anthologie à mentionner, celui où Charlot attaque l'ennemi avec un fromage puant qu'il avait tout d'abord approché avec son masque à gaz. Il ridiculise à lui seul la puissante armée du Kaiser. Poussant plus loin cette logique subversive, Chaplin devient plus impertinent encore lorsqu'il imagine de déguiser Charlot en arbre. Ce subterfuge permet alors à ce dernier d'assommer 3 soldats allemands et de libérer un prisonnier destiné à être fusillé. Là encore, l'exagération a pour fonction d'anéantir par le rire toute empathie avec la figure du héros et ses faits d'armes. Enfin, il termine ses aventures en libérant une belle Française, Edna Purviance, et en capturant les principaux chefs de guerre allemands, dont le Kaiser lui-même. Chaplin exagère ainsi systématiquement les faits héroïques de Charlot jusqu'à la caricature. À travers ses tribulations, il sape tout au long du film les conduites guerrières qu'il est de coutume de glorifier. Il les présente au contraire comme des farces qu'il n'y a pas lieu de prendre au sérieux et surtout dont il n'y a pas lieu d'être fier et de sacraliser. Et pour qu'il n'y ait absolument aucun doute et aucun risque de malentendu, nous voyons Charlot, à la fin du film, être secoué rudement par un soldat. Il doit se réveiller car le rêve est terminé. Constamment critique, Chaplin pulvérise par le rire non seulement les codes de la bienséance, mais il remet plus encore en question la légitimité des hiérarchies et celle de la soumission à l'institution militaire et à l'autorité étatique. Ce faisant, il nous donne à voir une œuvre pacifiste très irrévérencieuse, mais aussi très lucide. Il convient toutefois de savoir que Chaplin a soutenu l'effort de guerre auprès de ses amis Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Il a notamment tenu des discours favorables à l'engagement des troupes américaines dans le conflit européen. C'est la raison pour laquelle il a décidé de supprimer des séquences initialement prévues qui mettaient en scène la capture de Poincaré, du roi George V et du président Wilson au même titre que celle du Kaiser. Mais Chaplin n'a pas souhaité finalement maintenir une telle provocation. Certes, l'effet comique aurait été réussi, avec l'héroïsme et la bravoure militaire déniés à toutes les parties belligérantes. Toutes également frappées par l'absurdité de la guerre. Mais l'artiste Charlie Chaplin a décidé de laisser la place au citoyen britannique Chaplin et de s'engager résolument en faveur des alliés. Par la suite, il ne cessera de prendre politiquement position dans son siècle, avec l'exemple des questions de société, comme dans Les Temps modernes, tourné en 1936, ou bien sur des enjeux internationaux, comme avec Le Dictateur, qui sortira en 1939. Aux États-Unis, dans les années 50, accusé de prendre des positions communistes, il dut subir les enquêtes du FBI. Victime du McCarthyisme, comme Dalton Trumbo ou Joseph Losey, il fut lui aussi inscrit sur la liste noire du cinéma. Ce harcèlement dont il fut alors l'objet explique son exil en Suisse, où il vivra jusqu'à sa mort en 1977.